Voilà, donc nous sommes donc dans les derniers versets d'Ésaïe 58. On est vraiment encouragé, béni par ce chapitre d'Ésaïe 58 pour tout ce qu'il nous apporte dès les premiers versets. Nous avons vu l'importance de se rapprocher de Dieu, d'avoir une relation vraiment sincère, durable aussi les uns avec les autres. Et ce matin, nous allons regarder un des versets clés de ce chapitre 58, c'est le verset 12. Donc, ouvrons notre Bible dans Ésaïe chapitre 58, verset 12. On va le lire tout à l'heure. Mais le thème, c'est restaurer notre relation, relever les fondements posés. Relever les fondements posés. Nous allons voir comment ce verset 12 est un verset clé pour comprendre ce que le Seigneur nous demande d'être et de faire en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église. Donc, la semaine passée, nous avons vu, prochain dia, les versets 8 à 11, qui sont la troisième partie de ce chapitre, qu'on appelle ça les conséquences de cette relation restaurée. Donc, on voit que dans ce chapitre 58, il est comme divisé en trois parties. La première partie que nous avons vue ce printemps, c'est restaurer notre relation avec Dieu. On a vu comment nous devons restaurer notre relation avec Dieu, de comment nous avons perdu ce premier amour, comment nous avons peut-être la forme extérieure de piété ou d'attachement à Dieu, mais qu'en réalité nous agissons dans une pratique d'actes religieux, mais que rien ne change dans notre attitude, notre comportement. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Le deuxième partie de ce chapitre 58, c'est restaurer une relation avec les autres. Lorsque nous avons compris comment restaurer notre relation avec Dieu, ça va déboucher de savoir comment le faire aussi avec les autres, comment qu'on peut le faire avec nos frères et sœurs dans l'Église, avec notre prochain. On voit que Jésus va parler beaucoup de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Il dit même, c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Nous l'avons vu aussi à travers différents sujets, dont la fraternité. On encourage encore l'importance de cette connexion que nous pouvons avoir le dimanche, mais aussi durant la semaine, de nous encourager les uns les autres. Nous avons aussi Galates chapitre 6, verset 2, qui dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Il nous encourageait pas simplement d'aimer ou de respecter nos frères et sœurs, mais de porter, c'est-à-dire d'encourager les personnes qui passent par des moments difficiles, c'est-à-dire aussi de pouvoir prier pour eux, de pouvoir les écouter, de pouvoir peut-être même leur apporter une aide financière selon les besoins. Et nous arrivons donc dans le prochain dia, dans la troisième partie, les conséquences de cette restauration. On a vu justement la semaine passée les conséquences positives du véritable jeûne tel que sont décrites dans Ésaïe, dans les versets 6 et 7. Et puis on a vu justement que dans le verset 8, il est parlé que la lumière jaillira. Donc comment cette lumière, comme on l'a vu aussi, on l'a chanté ce matin, la lumière du monde, on sait que c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde, mais nous sommes appelés à être cette lumière qui resplendit. Un jour nouveau va venir lorsque cette lumière va jaillir dans notre vie. Il est parlé aussi dans le verset 8 que ton rétablissement s'opérera bien vite. On espère tous dans notre santé d'avoir un rétablissement quand c'est difficile. Comment que Dieu est concerné à nous redonner ce qui a été perdu par le rétablissement de quelque chose que nous avons justement perdu. Il est dit aussi, la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Cette justice sera là avec nous et nous verrons la gloire de Dieu être présente avec nous. Que cette présence et sa puissance seront là pour nous guider, nous protéger, démontrer aux autres que nous appartenons à Dieu. Et ensuite, on a vu justement dans le verset 9, qui dit, quand tu appelleras, l'Éternel répondra, quand tu crieras l'aide, il dira, je suis là, si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les jets menaçants et les propos méchants. Il est dit que l'Éternel répondra lorsque tu t'appelleras dans la prière, dans la détresse, Dieu va te dire, je suis là. On voit l'importance que lorsqu'on vit des situations difficiles, des difficultés, des épreuves, de savoir que Dieu est là à côté de nous, qu'il va répondre à nos cris, à nos détresses. Ensuite, on le voit aussi dans le prochain dia, dans le verset 10. Il dit, l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Dans ce verset, il est dit que l'Éternel sera ton guide constamment. On aimerait justement que Dieu soit notre guide jour après jour, principalement dans les temps difficiles, dans les décisions peut-être difficiles à prendre, dans les directions à prendre aussi. Il est dit dans la suite du verset, il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Comment nous pouvons trouver dans un désert dans notre vie, en temps de difficultés, en temps peut-être d'épreuves. Nous ne savons pas quoi faire, le désert, c'est vide, il n'y a rien, il fait chaud, il n'y a pas d'eau. Et là, de voir que même dans les terres, dans les déserts arides, Dieu sera là avec nous. Il va pourvoir à nos besoins. Il est dit, il te fortifiera, tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Dieu va nous fortifier dans les temps les plus difficiles, nous encourager quand tout semble perdu ou sans issue. Et il va nous redonner force et vigueur pour aller de l'avant. Il est aussi parlé justement dans ce verset à une source vive aux eaux intarissables. Ce qui veut dire que c'est une source qui apporte la vie, qui rafraîchit dans les temps difficiles, qui permet d'avoir la vie en abondance. Donc tous ces points décrits dans ces derniers versets sont la réponse ou le véritable jeûne tel que prescrit dans les versets 6 et 7. C'est la conséquence des actions qui sont faites envers les frères et sœurs de l'Église, envers les autres, envers notre prochain. Donc maintenant, lisons le verset 12. Ésaïe chapitre 58, verset 12. Il est dit, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Donc, dans ce verset, on voit plusieurs verbes qui commencent par la lettre R. On les a nommés les quatre R. Il y a le mot rebâtir au début de ce verset, qui veut dire de bâtir de nouveau, ou encore dans cette phrase, de rebâtir sur les ruines d'autrefois. Donc, Ésaïe fait allusion à la reconstruction des murailles quelques années plus tard par Néhémie. Rappelez-vous que le peuple est en déportation et ils ont hâte de revenir dans leur pays. Et il leur dit, vous allez pouvoir rebâtir sur les ruines de Jérusalem, sur aussi les ruines du temple qui a été détruit. Certains commentateurs bibliques vont dire aussi que c'est une allusion à la restauration finale de Jérusalem, du millénium, à la fin des temps, lorsque Jésus va revenir, il va restaurer, il va rebâtir ce qui a été brisé, ce qui a été détruit. Pour nous, en cette année 2025, comment interpréter ce bout de phrase? Lorsque nous étions à l'Assemblée annuelle au début juin, on a parlé des défis de l'Église, principalement en Amérique du Nord. Rappelez-vous, on avait dit que 80-85% des églises stagnent ou sont en déclin. 14 à 19% sont en croissance à cause de transferts des chrétiens entre les églises, une croissance biologique par les naissances ou bien par l'apport de l'immigration. Mais on voit qu'une grande partie de l'Église vit, stagne ou sont en déclin. On a vu aussi le déclin du protestantisme. C'est seulement moins de 1% qui croissent à travers les conversions de nouveaux chrétiens. 8,7 millions de protestants de moins en 10 ans en Amérique du Nord. Il y a 3 750 églises qui ferment par année, contre 1 300 qui débutent ou s'implantent par an. Donc, on voit qu'il y a aussi un déclin du côté de la croyance, du côté aussi de la pratique de la foi. Au Canada, on dit que 53% des Canadiens s'identifient comme chrétiens, une baisse de 14% par rapport à 2011. En 1971, seulement 4% des Canadiens ne disaient qu'ils n'avaient aucune affiliation religieuse. Donc, ils disaient qu'ils n'appartenaient à aucune religion. En 2011, c'est 23,9%, 24% qui n'ont pas d'affiliation religieuse. Et en 2021, près de 35%. Donc, on voit de plus en plus comment que les Canadiens ne s'identifient plus à aucune religion, n'arrivent plus à voir Dieu comme quelqu'un qui est réel, comme quelqu'un qui peut être là, comme un solide rempart, comme quelqu'un qu'ils vont adorer, qu'ils vont louer. Je lis présentement un livre qui mentionne qu'aujourd'hui, on a tous les concepts imaginables pour le développement de l'Église, que nous avons la formation, les ressources pour être une bonne Église en santé. Mais l'auteur dit que tous ces outils, toutes ces ressources peuvent nous aider, mais que la base de la santé de l'Église réside dans les concepts d'autrefois. Dans ce verset 12, il le dit. Nous ne devons pas bâtir une église selon les principes de l'homme, comme il développe par rapport à son intelligence, à sa sagesse. Il est dit qu'il faut rebâtir, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y avait comme ruine et de rebâtir dessus. On sait aujourd'hui que dans la rénovation, La plupart du temps, lorsqu'une maison est vraiment comme maganée ou lorsqu'elle a passé par le feu, c'est préférable de complètement tout détruire, de recommencer à neuf. On dit que c'est plus simple, plus sécuritaire. Mais le Seigneur nous demande de rebâtir. Nous avons aussi dans le deuxième R de ce verset 12 le mot relever, c'est-à-dire de lever de nouveau ce qui était fondé dans le passé. Ici encore, nous pouvons voir notre compréhension d'aujourd'hui, de l'importance de reprendre ce qui était fondé dans le passé et de le relever, de le dépoussiérer peut-être si nécessaire, afin que ce fondement qui était solide et juste puisse être nouveau être le cas pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. Comme on a dit, le fondement de l'Église ne repose pas sur la capacité de certains hommes ou d'une structure super huilée. Non, le fondement de l'Église repose sur Jésus-Christ qui est le chef. Amen. Vous pourriez dire, mais oui, pasteur, on le sait déjà et on le fait aujourd'hui. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, Jésus est vraiment le chef de l'Église? Est-ce que c'est lui qui dirige l'Église par l'intermédiaire du Saint-Esprit? Et on a pu le voir dans ces derniers, durant aussi ce printemps, à travers les études des lettres aux églises de l'Apocalypse. Comment que souvent ce sont des hommes qui dirigent l'Église. Comment que Jésus est souvent relégué en arrière, ou seulement quand on a besoin, on va s'adresser à lui. Justement, le troisième point, le troisième R qu'on voit dans le verset 12, il est dit, tu seras appelé réparateur des brèches. On voit le mot réparer. Avec le temps, avec les années, des fissures ou des trous sont apparus dans la construction de l'Église. Comme par exemple, au IVe siècle, l'empereur Constantin institua le christianisme comme religion d'État. Et plus tard, ça a été mélangé que même le pouvoir politique religieux était ensemble. Les rois devenaient aussi des prêtres, etc. Et on a vu comment que le christianisme est venu diluer. On a connu aussi les guerres de religion. Comme par exemple avec les croisés qui tuèrent des milliers de personnes qui n'étaient pas, qui se disaient pas chrétiens. On le voit à travers les scandales, les abus des pasteurs ou des leaders. On a vu dernièrement, je venais de lire cette semaine, le groupe de musique chrétien des États-Unis, New Boys, qui pendant des années, le leader a vécu une double vie, marquée par des abus sexuels, de la consommation de drogue et d'alcool. Il disait comment que le dimanche, il pouvait louer le Seigneur devant des milliers de personnes et comment que les gens étaient bénis, mais que le lundi matin, le lundi, toute la semaine, il vivait une autre vie, loin de Dieu, dans des choses horribles. Tout au long de ces années, de ces 2000 années d'histoire de l'Église, on voit que de nombreuses brèches se sont rajoutées. Et on arrive à constater que, comme on avait énuméré tout à l'heure, de la situation de l'Église en Amérique du Nord. Dans la suite du verset, justement, 12. Le quatrième R, on voit le mot restaurer, celui qui restaure les demeures en ruine. Je suis toujours fasciné de voir comment que nous pouvons aujourd'hui être capables de restaurer des ruines de bâtiments qui datent de plusieurs siècles. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Comment que pendant des années, ils ont restauré avec des mêmes matériaux, les mêmes techniques que dans l'ancien temps pour reproduire exactement comme la construction première. Ce mot restaurer démontre qu'il y a un travail à faire, comme on le voit dans la définition du mot, de prendre quelque chose et de le rétablir en son état ancien, en sa forme première, de remettre en bon état, de remettre en vigueur, de redonner des forces. Donc ces mots, rebâtir, relever, réparer, restaurer, sont synonymes dans la démonstration d'une action nouvelle. La plupart de ces mots commencent par les lettres re. Démontre qu'il y a une action qui doit être faite. C'est intéressant de voir comment que Dieu conduit les choses dans notre Église. Il y a à peu près 2 ans, on l'a déjà dit, il y a eu un texte d'Ésaïe qui nous a fait réfléchir en tant que leader. Ésaïe chapitre 64, verset 4, qui dit, Tu viens à la rencontre de ceux qui pratiquent la justice avec joie, qui se souviennent de toi pour suivre ton chemin. Tu t'es mis en colère à cause de nos fautes, mais nous serons sauvés en suivant les chemins d'autrefois. C'est surtout la dernière phrase qui nous a interpellés. Nous serons sauvés en suivant les chemins d'autrefois. Ce verset nous montre, comme dans le texte d'Ésaïe 58, qu'il y a des pratiques ou des façons de faire pour s'approcher réellement de Dieu. Mais qu'avec le temps, le peuple avait perdu la véritable raison de pourquoi il croyait en Dieu, de comment vivre sous le regard de Dieu. On le voit dans les premières phrases de ce verset 4 d'Ésaïe 64, qui dit que Dieu vient à la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a une oreille attentive, qu'il va marcher avec eux, avec ceux qui pratiquent la justice avec joie. Très souvent, dans nos lectures de la Bible, on lit ou on fait référence à ce que l'Église primitive, c'est-à-dire la première Église, a vécu après l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. De voir ce qu'ils ont été capables de faire, comment ils ont été capables de se développer et de se répandre à travers le monde. Je suis toujours un peu ébahi de voir ces disciples qui n'avaient aucune formation dans le développement d'Église, aucune formation dans la gestion de l'Église, dans l'organisation, qui du jour au lendemain ont passé de 150 personnes à 3 000 et plus tard à 5 000 et encore plus. Mais on a pu voir, on peut voir, on peut lire dans les Actes comment cette Église avait mis en place des principes, des valeurs qui ne venaient pas d'eux, parce qu'ils étaient sans instruction, sans devant la multitude qui arrivait, mais par le Saint-Esprit. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit pour avancer. Donc, ces principes établis par les apôtres de Jésus, qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, qui était là avec eux et les guidait. Ces principes sont encore vrais pour nous aujourd'hui. Et ce sont justement ces chemins d'autrefois, du texte d'Ésaïe 64. Ce sont les principes que nous retrouvons aussi dans le texte d'Ésaïe 58 au verset 12. Alors, prochain dia. Alors aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de juillet, est-ce que nous voyons des principes de la première Église que nous avons perdus ou négligés? Est-ce qu'il y a peut-être à rebâtir dans notre Église des valeurs ou des points qui peut-être ont été brisés avec le temps? Est-ce qu'il y a besoin de relever des fondements qui ont été posés que nous avons négligés? Est-ce qu'il y a à réparer, parce qu'on voit des brèches dans notre Église qu'on doit réparer, qu'on doit boucher pour être une Église solide et selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'il y a à restaurer et rétablir quelque chose de perdu, à consolider des valeurs? Dans mes temps de prière, de réflexion, je vois de belles choses qui se passent au sein de notre Église, mais je vois aussi des brèches. Je vois qu'il y a des trous qui ont besoin d'être réparés, de restaurer certaines choses que nous avons perdues, que nous avions peut-être avant, mais que nous faisons moins, qui a moins d'effet aujourd'hui. Et un de ces points, c'est la prière collective en Église. On voit que justement dans les Actes, les apôtres ont mis en place cette prière collective et comment ça a eu un impact considérable sur l'Église, sur le développement de l'Église. Rappelez-vous, lorsque la pandémie est arrivée en 2020, on a senti qu'il fallait se mettre à prier ensemble d'une façon nouvelle et plus persévérante. Et pendant des mois, nous avons prié à tous les jours, pendant 1 heure à tous les midis. Ensuite, après, on a commencé à faire 3 rencontres par semaine à midi, le mardi, le jeudi, le samedi. Et il y a une année, on a changé la prière pour la mettre 2 fois par semaine en soirée. Tout cela parce qu'on voyait qu'au début, les gens étaient présents dans les prières, mais après, à un moment donné, il y avait un certain essoufflement où les gens étaient moins présents. Donc, on voulait donner un second souffle et on s'est dit, ben, peut-être que si on change du midi au soir, il y aura plus de monde. Et c'est vrai qu'il y avait plus de monde au début. Si nous regardons du côté des soirées Impact Prière, on a eu des rencontres le vendredi soir, une fois par mois, avec plus de 15 personnes. Mais lors de la dernière rencontre du mois de juin, il y avait 4 personnes. Donc, on voit un certain essoufflement du côté de la prière. Même si nous croyons que tout commence par la prière au sein de l'Église, et on le répète souvent. Alors, est-ce que c'est justement peut-être un point, une valeur qu'on a besoin de relever, de restaurer? J'ai ressenti depuis quelque temps que nous en remettons la prière au sein de notre adoration, de notre célébration, même le dimanche matin. Il faut que nous puissions voir ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à la prière. Depuis un certain temps, j'en ai parlé un peu au comité de l'importance de la prière aussi avant le culte. Et je ressens, puis je crois qu'on peut arriver à être une église qui prie le dimanche matin, ou que chaque personne sera tellement contente de venir même 1 heure avant pour prier, parce qu'on va vivre des choses merveilleuses dans la prière. J'entends tellement de bons témoignages des églises qui mettent l'emphase sur la prière et comment que le Seigneur change les choses, comment que les gens peuvent être touchés. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de la louange, on a besoin de l'enseignement, on a besoin de la fraternité, on a besoin de toutes ces choses, mais ça doit commencer à travers la prière. Alors regardons brièvement justement les impacts de la prière collective. Rappelez-vous justement les disciples. Lorsque Jésus est remonté au ciel, il leur a dit, attendez ensemble jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur va venir. Pendant 10 jours, à tous les jours, ils se rassemblaient avec les apôtres, avec les fidèles. Ils priaient, ils cherchaient dans la parole qu'est-ce qui allait se passer. Plus tard, dans Actes chapitre 13, verset 2, on peut ouvrir notre Bible dans Actes chapitre 13, verset 2, on voit dans l'église d'Antioche qu'il est dit, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc on voit dans ce texte et d'autres textes que chaque fois que l'Église est en prière, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, ils étaient en prière, ils étaient rassemblés et l'effusion du Saint-Esprit est arrivée. Ici dans ce texte, on voit que l'Église était en prière et là ils ont reçu la consigne du Saint-Esprit de dire, mettez à part Barnabas et Saul parce que j'ai une mission pour eux. Donc, ces textes nous montrent un principe réel. C'est dans la prière et l'adoration que le Saint-Esprit transforme les personnes pour les préparer à la mission que le Seigneur les confie. La mission, c'est d'être justement cette lumière dans le monde. C'est d'être celle de la terre, comme Jésus le dit dans le serment sur la montagne. Dans la prière collective, c'est la prière en tant qu'Église. Le Saint-Esprit agit et change les cœurs pour qu'ils puissent avoir un réveil du cœur, de l'âme et de la personne. Voilà pourquoi que durant cet été, nous allons mettre en emphase sur la prière, le dimanche matin. Nous allons changer un peu la structure du culte du dimanche matin pour mettre l'emphase sur la prière. Pas la prière forcément juste dans les besoins, mais nous allons découvrir l'importance de la prière de confession, l'importance de la prière d'adoration, l'importance de la prière de contemplation, d'intercession. Et nous allons voir comment que le Seigneur veut que nous passions du temps dans la prière. Donc, à travers des enseignements de comment nous allons le faire, et on ne va pas justement réinventer quelque chose, on va voir dans les chemins d'autrefois, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Rappelez-vous, la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus, Jésus, enseigne-nous à prier. Alors, nous allons être enseignés à prier à travers la prière Notre Père. La prière Notre Père, ce n'est pas mon Père qui est aux cieux, c'est Notre Père. Donc, cette prière était là pour justement prier ensemble. En tant qu'Église, en tant que corps du Christ. Et on va voir à travers ce que Jésus a enseigné à ses disciples, les bienfaits de cette prière et qu'est-ce que ça peut nous amener aussi aujourd'hui dans nos prières ensemble. John Ovchinnikov, dans son livre La prière, comment prier façonne l'Église, va dire: L'attachement d'une Église à la prière est l'un des plus grands facteurs qui détermine son efficacité dans le ministère. Rappelez-vous, dans l'assemblée annuelle que nous avons faite, on a parlé de ce désir de vivre une revitalisation au sein de notre Église, c'est-à-dire d'être renouvelé dans notre engagement avec le Seigneur, d'être restauré nous-mêmes dans notre relation avec Dieu et avec les autres, et que ça puisse avoir un impact aussi vers l'extérieur. Voilà pourquoi que nous devons nous mettre à genoux pour rechercher la face de Dieu, pour nous humilier, pour entendre la voix du Seigneur, afin de voir un changement de cœur. Et c'est comme on l'a dit, on ne va pas le commencer par nous-mêmes, mais on va regarder des chemins d'autrefois. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu qui nous permet de dire oui, ces chemins autrefois, c'est peut-être qu'est-ce que les disciples, les apôtres ont mis en place. Est-ce que nous le vivons? Est-ce qu'on a besoin de relever, de réparer, de restaurer des choses qui nous avons manquées ou nous avons perdues? Donc réalisons ce matin que le Seigneur veut nous dire à chacun de nous et à moi en premier, que nous avons perdu ou manqué certaines choses dans notre vie avec le Seigneur, dont la prière ensemble en tant qu'Église. Jésus nous demande de rebâtir la prière afin qu'elle soit le fondement de notre Église. Jésus nous demande de relever ces temps de prière afin de discerner ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Jésus nous demande aussi de réparer ce qui a été brisé dans notre Église et nous allons le voir à travers la prière. Jésus nous demande de restaurer les brèches, les trous qui sont apparus et qui nous empêchent de voir la puissance réelle de notre Seigneur agir. Nous désirons le faire par la prière. Ce matin, nous avons la table du Seigneur devant nous, cette table qui nous rappelle ce que Jésus a fait avant de quitter cette terre. Jésus veut nous rappeler que son corps qui était brisé pour nous peut encore nous sauver et nous réparer, peut encore nous restaurer, peut encore nous relever. Son sang qui a été versé sur la croix pour nos péchés, peut encore aujourd'hui nous laver de nos péchés, de nos brèches que l'ennemi a fait dans notre vie, depuis peut-être très longtemps. Alors ce matin, venons dans l'invitation de notre Seigneur, venir à sa table afin d'être relevé, afin d'être restauré, afin de pouvoir être complètement changé, transformé par la présence de Dieu, de réparer les brèches pour la sainte gloire de notre Seigneur. Alors simplement, courbons notre tête. J'aimerais simplement inviter le groupe de louanges à reprendre le chant « La lumière du monde, je suis la lumière du monde » pour nous rappeler comment que, oui, Jésus est la lumière du monde et qu'on a besoin de s'approcher de cette lumière afin d'être transformé. On a besoin d'être guidé par cette lumière pour pouvoir justement être rafraîchi, restauré, réparé. Alors le Seigneur nous invite devant cette table à dire « Seigneur, quand je prends ces éléments qui me rappellent tout ce que tu as fait pour moi, est-ce que je peux être encore réparé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des choses dans ma vie? Est-ce qu'il y a des péchés, des manquements qui m'empêchent de voir réellement être restauré devant toi? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas forcément peut-être des péchés, mais qui prennent trop de place et que j'ai besoin de lâcher prise, de mettre ça devant le Seigneur. Alors le Seigneur veut nous inviter devant cette table à venir humblement, avec nos imperfections, avec nos manquements, et dire « Seigneur, je ne viens pas devant cette table la même chose que je suis venu, que je suis arrivé ici. Je vois que j'ai besoin d'être changé, transformé. J'ai besoin de vivre une transformation. Si je ne peux être transformé moi-même, je ne peux pas aller transformer les autres. On parle beaucoup de réveil, mais le réveil commence par l'Église. Le réveil commence par les personnes elles-mêmes. Le réveil commence à s'humilier, à reconnaître nos manquements, nos fautes, reconnaître qu'on a passé à côté de ce que Jésus voulait pour nous et de simplement de dire « Seigneur, viens ». Viens laver mes imperfections, viens laver mes péchés. Viens à travers ce corps qui a été brisé, me rappeler comment tu as eu plein d'amour pour moi et que tu désires me réparer. Tu désires encore me restaurer avec toi. Et Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, ce matin, prendre ces éléments d'une façon désinvolte ou par habitude, mais nous rappeler que tu es mort pour nous, toi le Fils de Dieu. Tu l'as fait par amour, tu l'as fait par sacrifice pour nous donner la vie. Et Seigneur, ce rappel, même 2000 ans plus tard, montre que ce sang qui a été versé encore nous change, que ce corps qui a été brisé est là pour nous montrer que tu veux encore nous transformer, que tu veux nous redonner vie, que tu veux nous restaurer, que tu veux nous réparer. Alors ce matin encore, Seigneur, ouvre nos cœurs, notre intelligence à comprendre ce que tu veux pour nous. Tu veux, Seigneur, que ton Église, c'est-à-dire chacun de nous, puisse rayonner, puisse être cette lumière du monde. Mais nous devons reconnaître que souvent nous faillissons, nous faiblissons. Souvent, c'est dans l'obscurité que nous sommes. Alors, Seigneur, continue de nous changer, de nous rappeler qu'à travers ces éléments, tu es capable encore de nous guérir, tu es capable encore de nous changer. Tu es capable encore de nous pardonner. Alors, on va venir simplement, humblement devant toi, prendre ces éléments comme un rappel de ce que tu as fait, mais comme aussi dire, Seigneur, je me repens devant toi. J'ai besoin encore de ta grâce, j'ai besoin encore de ton pardon, j'ai besoin encore de ton souffle nouveau pour permettre de vivre avec toi. Alors oui, Saint-Esprit, viens travailler encore dans nos cœurs, afin que nous ne soyons pas ces chrétiens qui déclinent, cette Église qui décline, mais que nous soyons ces chrétiens qui s'épanouissent, qui grandissent, qui progressent, qui agissent puissamment dans le monde. Merci. Alors faisons cette prière. Seigneur, nous ne venons pas à ta table, ô Seigneur miséricordieux, avec orgueil et suffisance, et croyant que en notre propre justice, mais nous comptons sur ta grâce abondante et infinie. Nous ne sommes pas dignes de ramasser des miettes sous ta table. Toi, ô Seigneur, tu ne changes pas dans ta miséricorde, parce que tu es amour. Accorde-nous donc, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, de manger à ta table de manière à recevoir en esprit en vérité le corps de ton cher fils, Jésus-Christ, de même que les mêmes mérites accordés par son sang versé, afin qu'en étant lavé et purifié par son sang précieux, nous puissions vivre et croître à sa ressemblance, nous en lui et lui en nous. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort à la croix pour notre rachat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à ta table par obéissance à ton Fils Jésus-Christ, qui dans son Saint-Évangile nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Dans la nuit, il fut livré. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit en donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour vous, garde vos corps et votre âme pour la vie éternelle. Prenez et mangez ceci en mémoire de Jésus-Christ, mort pour vous, et nourrissez-vous de lui dans votre cœur par la foi avec action de grâce. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il ordonna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour vous, garde vos corps et votre âme pour la vie éternelle. Buvez cette coupe en mémoire du sang de Jésus-Christ répandu pour vous et soyez reconnaissants. » Seigneur, merci pour cette table, ce repas qui nous rappelle tout ce que tu as fait pour nous. On ne pourra jamais assez te remercier d'être reconnaissant pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et que tu continues de faire pour nous encore aujourd'hui. Tu veux nous rappeler encore ce matin, Seigneur, que tu désires que nous puissions vraiment être renouvelés, restaurés dans notre marche avec toi, dans notre impact que nous pouvons aussi avoir les uns avec les autres et autour de nous. Seigneur, permets que ce sang qui a été versé, ce corps qui a été brisé pour nous, puisqu'on continue de nous façonner pour être à ton image, puisse continuer de nous montrer le chemin à suivre, puisse nous donner vigueur, force pour aller de l'avant, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre. Nous avons ta puissance, Seigneur, parce que tu n'es pas resté sur la croix, la mort ne t'a pas retenu. Mais tu es ressuscité le troisième jour pour donner la vie. Et nous voulons, Seigneur, en tant que frères et sœurs, en tant qu'Église, rayonner de cette lumière que tu nous demandes d'être, afin que le monde croie, afin que le monde voit que tu es le Fils de Dieu, afin que le monde croie que tu es le seul qui peut donner la vie. Alors merci. Merci pour ce sang qui a été versé pour nous. Merci pour ce corps qui a été brisé. Tu l'as fait par amour. Tu l'as fait pour nous donner la vie et on te remercie, on te loue, Seigneur Jésus. Maintenant que nous allons bientôt quitter cet endroit, nous demandons que durant ces prochains temps, ces prochaines journées, prochaines semaines, tu puisses continuer de nous renouveler en toi, que nous puissions voir comment que l'importance de cette prière ensemble pour chercher ta face, pour pouvoir goûter à ta présence d'une façon renouvelée, de voir ce que le Saint-Esprit veut nous dire pour nous, pour notre Église, de nous préparer à la moisson. Alors que Seigneur, tu puisses garder chacun de nous dans la suite de cette journée, la suite de cette semaine. Que ton nom, que ta grâce, que ta bonté, que ta paix repose sur chacun de nous, aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Et que nous puissions continuer de te louer, de t'adorer pour tout ce que tu es pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.